Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous nous retrouvons pour évoquer un nouveau portrait à la découverte du Nouveau Monde. Après Hernán Cortés, après Isabelle la Catholique, eh bien aujourd'hui nous allons parler de Moctezuma. Je reçois Isabelle Schmitt. Isabelle, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes hispanisante, que vous êtes journaliste également. Vous travaillez au Figaro hors série, le Figaro hors série qui est donc un partenaire de Canal Académie. Qui était Moctezuma ? Isabelle.
Alors Moctezuma, aussi connu sous le nom de Montezuma, est le dernier empereur aztèque. Il est le contemporain d'Hernán Cortés, un peu plus âgé que lui vraisemblablement, mais en tout cas c'est lui qui l'a rencontré et c'est lui qui a essayé de maintenir son empire contre les Espagnols, contre ou avec, on en parlera, c'est cela qu'on verra.
Alors nous sommes à la charnière donc, du 15e et du 16e siècle. Quel est le contexte de l'époque de Moctezuma ?
Alors Moctezuma arrive au pouvoir au moment où l'Empire aztèque est à son apogée. Ce qu'il faut savoir, on confond souvent les Aztèques, les Incas et les Mayas, les plus proches étant les Aztèques et les Mayas, alors que les Mayas forment une civilisation très ancienne apparue en 2000 à peu près avant Jésus-Christ et qui continuera jusqu'à l'arrivée des Espagnols, donc jusqu'au 15e siècle, toutefois en période de décadence sur la fin. Les Aztèques sont une civilisation très récente, puisqu'en fait, quand Moctezuma arrive au pouvoir, donc au XVIe siècle, l'empire aztèque a tout juste un siècle d'existence. Les Aztèques sont installés à côté des Mayas. Ils émanent de peuplades vraisemblablement assez proches des Mayas, et ce qui explique une grande proximité, une influence mutuelle. On verra que sur la fin, les Mayas sont totalement influencés par les Aztèques, notamment pour ce qui est des sacrifices humains. Bref, quand Moctezuma arrive au pouvoir, l'empire aztèque est à son apogée. Les arts sont florissants, la civilisation est d'un raffinement extrême. J'aurai le plaisir de vous lire quelques citations qui vous montreront que la littérature elle-même est très raffinée. Architecturalement parlant, c'est également assez riche, même s'il faut toujours replacer ça dans son contexte, parce que c'est vrai que nous, Européens, quand on va au Mexique, on est fascinés par les pyramides en s'imaginant qu'elles correspondent aux pyramides égyptiennes, en revanche, alors que, en fait, ce sont des pyramides construites au XVe siècle. Donc, il faut mettre ça à peu près à l'époque de nos châteaux de la Loire ou de nos cathédrales.
Alors, nous avons évidemment peu d'éléments sur sa naissance. Nous ne connaissons pas vraiment quelle est l'année de cette naissance. En revanche, nous connaissons beaucoup mieux son enfance.
Oui, on connaît son enfance parce que il y a pas mal de littérature indienne qui raconte comment un futur empereur était élevé. Et l'histoire de Moctezuma n'est pas différente de celle des autres, c'est-à-dire qu'il est élevé avec des enfants nobles, par des gardes et des pages et des prêtres. Ils sont élevés à la dure, c'est une éducation très austère. On leur apprend à être avant tout humbles, serviteurs, à balayer le temple des dieux, à balayer les rues de la ville qui sont considérées comme l'habitation des dieux, donc qui sont sacrées également. On leur apprend à être sobre, à être chaste. J'étais assez étonnée de constater que si un jeune garçon est trouvé en flagrant délit de commerce sexuel avec une femme, il est passible de mort. Donc toutes ces vertus, je dirais, de tempérance, de modestie, de choses comme ça, sont inculquées très fortement à Moctezuma. Et vraisemblablement, il les acquiert et il les fait siennes, puisque beaucoup d'Indiens et d'Espagnols qui le côtoieront, y compris Cortés, louent cette modestie et ce côté extrêmement humble par rapport aux dieux.
Mais alors, il est le fils de qui, en fait ? Quel est le régime dans lequel il se trouve et quelle est son opportunité qui lui permet finalement d'arriver au pouvoir et de lancer les réformes ?
Alors, le régime dans lequel il se trouve n'est pas héréditaire, c'est-à-dire que l'empereur est choisi, en fait, parmi des nobles. Et parmi les nobles, il y a des familles de plus haute naissance que d'autres. Mais enfin, parmi ces familles, on va choisir quatre jeunes garçons qui sont élus pour être au conseil des quatre. Et c'est parmi ce conseil des quatre que l'empereur, ainsi que les prêtres et les nobles, vont choisir l'héritier. Et donc Moctezuma est choisi. Non seulement il est de haute lignée, mais comme je vous le disais, il a des qualités humaines très remarquables. Outre sa modestie et son humilité par rapport aux dieux, outre sa piété également remarquable, il est un guerrier valeureux, il est un chef implacable, il est dur envers lui-même et envers les autres. On dit qu'il est incapable de pardon, Ça, c'est les Espagnols qui le diront. Les Indiens également, certains disent qu'il est extrêmement redouté car cruel, mais il est également accessible à des sentiments de bonté, d'humour. Il est à la fois austère, mais il aime la fête, il aime la danse. Donc, c'est visiblement, il a toutes les qualités d'un chef, et en tout cas d'un chef aztèque. Et donc, il est élu et il arrive au pouvoir en 1467.
Donc, à la mort de Moctezuma Ier.
Voilà.
D'accord. Il entame tout de suite une série de réformes.
Il entame tout de suite une série de réformes, oui. Après, les rites d'intronisation de son règne qui sont très importantes, puisque les prêtres et les nobles ne cessent de lui répéter la charge qu'il a, tout ce qui repose sur ses épaules. Je vous lirai juste la définition de ses tâches qu'on lui donne. Il t'appartient de pouvoir de vivre et de sustenter la machine mondiale, machine dont le royaume est la racine, le nombril et le cœur. Les quatre parties du monde ont les yeux fixés sur toi. Si elle te donne un glaive et un bouclier, c'est pour que tu mettes ta vie au service de la chose publique, voyant que toute la surface de la terre dépend de ton gouvernement. Donc voilà, il y a certaines choses quand même, pour ne pas dire tout, qui pèsent sur ses épaules. Et juste après son intronisation, il lance une première campagne qui va lui permettre de faire des prisonniers et de pouvoir sacrifier aux dieux pour les remercier. On reviendra là-dessus, mais le sacrifice humain est totalement central dans la vie religieuse et dans la vie tout court des Aztèques. Et il entame ensuite sa première série de réformes. La première, c'est une série de purges. En fait, il va changer absolument tout le personnel de son palais et de l'administration de son empire, donc c'est-à-dire à Mexico, mais également dans les provinces qui sont ses provinces vassales. Et il remplace absolument tout le personnel. Alors, soit il y a plusieurs versions, il les renvoie, mais on dit aussi qu'il les fait tous exécuter. Et parce que, disons que la légende de Moctezuma est à la fois dorée et noire, c'est-à-dire il a beaucoup de qualités, mais il est extrêmement cruel. Les Espagnols disent que c'est un boucher, les Indiens disent qu'il est cruel, mais ils voient ça aussi avec admiration, puisque sacrifier aux dieux, c'est faire preuve de générosité à leur égard et de prudence pour la cité, puisque si les dieux sont contents de la cité, ils vont forcément lui accorder une vie heureuse.
C'est un guerrier également, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, c'est un guerrier.
Quelle est la place de la guerre dans sa vie?
Alors, la place de la guerre est
Avant,
centrale.
bien évidemment, l'Espagne, avant l'arrivée des
Oui,
Espagnols.
avant l'arrivée des Espagnols, la guerre est centrale pour plusieurs raisons. D'abord, les Aztèques eux-mêmes, les hommes, sont élevés vraiment dans ce culte de la guerre, de la conquête, du fait que pour exister, il faut être le premier, que l'Empire aztèque, c'est l'empire de toute la terre, et donc il est inconcevable qu'il y ait des puissances égales à cet empire. Et donc il y a d'abord cette raison, et puis il y a une raison religieuse très importante également, puisque la guerre, c'est la défense des dieux de la cité, et dieux devant lesquels on immole des prisonniers, et dieux auxquels on rend un culte précisément en immolant des prisonniers. Ça, ce n'est pas du tout un point anecdotique, je dirais, parce que souvent, quand on parle des civilisations aztèques, les gens ont à l'idée la grandeur de leur temple, etc., et pensent au sacrifice humain comme quelque chose, oui, bon, qui arrivait parfois, mais qui était auquel il vaut mieux pas penser, parce que c'est vrai que c'est pas très sympathique comme idée. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout l'équilibre du monde repose sur le sacrifice humain et sur le fait qu'il faut nourrir le soleil. À l'époque de Moctezuma, c'est le dieu soleil qu'on appelle Huitzilopochtli. Alors, les noms sont un petit peu compliqués à prononcer. C'est un peu compliqué de s'y retrouver aussi dans ce panthéon des dieux, puisque les dieux aztèques se succèdent. On était avant sous le règne de Quetzalcoatl, et Quetzalcoatl est chassé de chez lui. Et c'est Huitzilopochtli, le dieu soleil, qui prend sa place. Et on verra que ça aura une très grande importance au moment de l'arrivée des Espagnols, cette alternance des dieux.
Mais alors, cette guerre, parce qu'il y a guerre, elle se fait contre qui?
Alors, cette guerre se fait contre les cités voisines, puisqu'il y a des tribus qui sont pas vraiment civilisées, mais d'autres qui le sont totalement, des cités totalement construites, armées, et qui acceptent plus ou moins bien la domination des Aztèques, puisque par domination, on entend un tribut humain très important. Il doit fournir en tout cas des hommes pour les sacrifices, il doit fournir des femmes et des enfants qui seront esclaves, et il doit fournir leur récolte au point parfois de mourir de faim parce qu'ils doivent payer le tribut à l'empereur, qui ne tolère aucun retard et qui souvent est prêt à faire mourir un village entier si le tribut n'a pas été payé. Donc les Aztèques sont redoutés. En même temps, c'est sûr que d'être allié à eux, cela peut avoir un intérêt pour se défendre de ses propres ennemis. Pour une cité, et c'est tout le jeu en fait qu'aura Moctezuma au cours de son empire, c'est d'essayer de s'allier de plus en plus de cités et de pouvoir résister aux cités qui sont encore puissantes, l'une des plus puissantes étant Tlaxcala, dont on parlera ensuite, puisque Tlaxcala sera une des principales alliées de Cortés et de ses hommes.
Il y a une véritable cruauté, hein, vous, dans vos recherches, vous avez trouvé cet épisode où il y a cette vengeance sur des habitants de Huexotzinco qui ont brûlé un temple à Mexico. Les prisonniers sont écorchés et des pénitents doivent revêtir en fait la peau de ces hommes pendant un certain temps.
Voilà, pendant 40 jours, pour faire pénitence et montrer aux habitants aztèques et aux gens alentours, puisqu'évidemment cette rumeur se répand, à quel point la souillure des traîtres et l'aide, puisque Huexotzinco en fait était une cité alliée des Aztèques, et certains étaient allés brûler un temple dans Mexico en cachette. Et donc Michel Grolich le raconte très bien, ce qui est ma principale source pour la vie de Moctezuma. Michel Grolich mène ça comme une enquête en fait, en comparant les textes et en disant voilà d'où est venu l'incendie du temple de Mexico. On identifie le village responsable et donc là il n'y a pas de quartier, le village est brûlé, tout est rasé, les temples, les idoles, les dieux sont détruits. C'est sans nuance, je dirais.
Alors, nous sommes au début hein, du XVIe siècle, et plus précisément même en 1515, date ô combien très connue. Mais en 1515, il y a une guerre, non pas seulement en Europe, dans cette partie du monde. C'est l'apogée de l'Empire.
Oui, on peut dire que c'est l'apogée de l'Empire, puisque de plus en plus de cités se rallient à Mexico et à la Triple Alliance. Ce qu'on appelle la Triple Alliance, c'est une alliance en fait entre trois grandes cités, dont Mexico, qui s'étaient coalisées depuis un siècle déjà pour être les plus fortes. Et donc la Triple Alliance, c'est la puissance suprême. Peu de cités réussissent en fait à résister, si ce n'est Tlaxcala, la fameuse. Et donc en 1515, la guerre éclate entre Tlaxcala et Huexotzinco, ce fameux village contre lequel il y avait eu des représailles aztèques. Et ce village, en fait, probablement pas de taille à affronter Tlaxcala, va demander sa protection à la Triple Alliance et donc à Mexico. Ce que Moctezuma accepte évidemment, puisque Tlaxcala est un de ses principaux rivaux. Il tente une guerre contre cette cité, mais ne parvient pas à l'emporter et attend son heure. Ça aussi, c'est assez édifiant de voir que la guerre est acharnée, mais si les prédictions sont mauvaises, si les prêtres ne prédisent pas une issue heureuse, elle peut ne pas être totale et l'Aztèque peut estimer qu'il faut attendre le temps des dieux et que donc le temps n'est pas encore venu. Et voilà.
Alors, Emmanuel Todd voyait dans l'apogée de l'Empire américain aujourd'hui hein, les signes malgré tout d'un déclin. Il découvre, il voit des signes avant-coureurs. Et vous faites la même réflexion. C'est-à-dire que nous sommes dans une période d'apogée de l'Empire aztèque et pourtant, il y a des signes avant-coureurs de la chute de cet empire.
Oui, effectivement, Michel Grolich en rapporte beaucoup, en fait, tout en disant que la grande difficulté aujourd'hui, c'est quand même de savoir que tout cela, toute cette littérature indienne dans sa presque totalité, a été écrite en 1530, c'est-à-dire 10 ou 20 ans après les faits. Et tout peut être aussi remanié au vu de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire l'échec de l'Empire aztèque. Et donc, on se met à écrire et à parler de choses qui ont existé, mais sur lesquelles on va broder. Mais tout de même, il y a des signes assez frappants, notamment des comètes, des lumières insolites au cours de la nuit qui se lèvent et donc qui provoquent la terreur des Indiens, qui se disent que le soleil est devenu fou. On parle aussi d'une sœur de Moctezuma qui serait ressuscitée et pour dire que c'était la fin de l'Empire de son frère. On parle d'un étrange oiseau capturé par des pêcheurs qui aurait eu un miroir sur la tête et qu'on aurait apporté devant l'empereur, qui, regardant dans ce miroir, aurait vu des étoiles. Et on dit comment se fait-il que l'empereur, qui est le signe même du soleil et du jour, quand il se regarde dans le miroir, il voit les étoiles et la nuit. Ça signifie que son règne est déclinant et qu'on est proche de la fin. Il y a également une histoire assez troublante, qui est l'histoire d'une grande pierre de sacrifice que Moctezuma fait sculpter, une énorme, et qu'il veut aller posé dans le grand temple de Mexico, et la pierre demeure insoulevable. Alors il mobilise des centaines, des milliers d'esclaves pour la tirer, toutes les cordes se cassent, et la pierre finit par parler et crier « N'avancez pas plus, ce règne est révolu, c'est fini ». Et bon, donc c'est, alors on y croit ou non, mais il y a une accumulation comme ça de petits signes. Et une chose, là, très, pour le coup très certaine, c'est qu'en 1517, soit 2 ans avant l'arrivée de Cortés, dans son empire, Moctezuma veut bâtir un temple magnifique à son dieu, Huitzilopochtli, un temple absolument magnifique, plein de richesses, avec une débauche de luxe, luxe qui est un peu suspect dans la mentalité aztèque. Il faut quand même toujours rester modeste, et donc le souverain qui veut construire un temple magnifique, serait-ce un dieu, est suspect de vouloir quand même attirer à lui aussi cette image fastueuse, luxueuse. Donc Moctezuma va prendre conseil d'un de ses voisins, le roi de Cuitláhuac, qui est assez versé dans les prédictions, les choses comme ça, et ce roi lui dit « En agissant ainsi, tu précipiteras la ruine de ta cité et tu offenseras le ciel. Le temps de Huitzilopochtli est révolu et le maître de la création arrive. » On dit que Moctezuma, furieux, fait tuer ce roi, ne l'écoute pas et commence les travaux du temple. Et voilà, ça c'est un fait relaté par plusieurs chroniques. Et disons qu'il ajoute au climat de peur qui règne, climat accentué par l'arrivée, la première arrivée des Espagnols qui vont aborder quand même en 1511 pour la première fois et qui, même s'ils ne sont pas restés, ont quand même fait un peu de bruit sur la possibilité d'envahisseurs proches.
Eh bien, Isabelle, merci beaucoup pour cette présentation de cet empereur. Il s'agit de la première partie de la vie de Moctezuma. Il y aura une deuxième partie, un éphéméride qui sera consacré à la rencontre entre Cortés et Moctezuma. Merci beaucoup, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt.